Bonjour à ceux que j'ai pas encore salués. Quelqu'un pourrait-il lire un texte qu'on a déjà lu, mais comme il sert de base à la prédication, c'est Matthieu 21, 1 à 11.
Ils s'approchèrent de Jérusalem et arrivèrent près du village de Bethphagée, sur le mont des Oliviers. Jésus envoya en avant deux disciples. Allez au village qui est là devant vous, leur dit-il. Vous y trouverez tout de suite une ânesse attachée et son ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si l'on vous dit quelque chose, répondez, le Seigneur en a besoin. Et aussitôt, on les laissera partir. Cela arriva afin que se réalisent ces paroles du prophète. Dites à la population de Sion, regarde, ton roi vient à toi plein de douceur, monté sur une ânesse, et sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples partirent donc et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, posèrent leur manteau sur eux, et Jésus s'assit dessus. Une grande foule de gens étendirent leurs manteaux sur le chemin. D'autres coupaient des branches aux arbres et les mettaient sur le chemin. Les gens qui marchaient devant Jésus et ceux qui le suivaient criaient « Gloire au Fils de David, que Dieu bénisse celui qui vient au nom du Seigneur. Gloire à Dieu dans les cieux. » Quand Jésus entra dans Jérusalem, toute la population se mit à s'agiter. « Qui est cet homme ? » demandait-on. « C'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée, » répondaient les gens.
Merci beaucoup. Le récit de l'entrée de Jésus à Jérusalem est un des rares textes qu'on trouve dans les quatre évangiles. L'évangile de Jean nous rapporte que Jésus est allé plusieurs fois à Jérusalem. Mais dans les trois premiers évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jésus n'entre à Jérusalem qu'une seule fois. Et c'est le dimanche des Rameaux. La venue à Jérusalem, la mort et la résurrection, sont le thème central de la dernière partie de la vie terrestre de Jésus. Et dans l'évangile de Matthieu, cela commence déjà au chapitre 16. Dans l'évangile de Luc, ça commence déjà au chapitre 9. Donc on voit que c'est vraiment un moment très important. Et ça commence tout de suite, on se met en route pour Jérusalem tout de suite après la confession de Pierre, dans Matthieu 16, qui reconnaît en Jésus le Christ, le Fils du Dieu vivant. On connaît tous ce passage, hein, je suppose. Et ce texte est un sommet de l'Évangile, puisque Jésus est dévoilé comme étant le Messie, le Fils de Dieu. Et c'est aussi le moment où Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait aller à Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être tué et se réveiller le troisième jour. Ça vient tout de suite après. Nous connaissons, je pense, la réaction de Pierre qui dit « Non, non, jamais de la vie !» et la manière dont Jésus lui répond. Aller à Jérusalem pour souffrir de la part des autorités, souffrir jusqu'à la mort. Jésus qui prend conscience de son destin n'y va pas forcément de gaieté de cœur, comme on l'a vu dans le film, dans la version de l'évangile de Jean, et comme on le sait par le texte du jardin de Gethsémané, qui est plus connu. Et donc, une semaine avant, quelques jours plutôt avant sa mort, Jésus entre à Jérusalem. La foule, qui n'a aucune idée du destin qui attend Jésus, le fait comme un prophète. Les attentes des personnes sur Jésus sont à ce moment-là très diverses. Beaucoup doivent s'attendre à ce que Jésus chasse les Romains. Vous vous rappelez les disciples d'Emmaüs, hein, qui espéraient qu'il chasse les Romains, et qu'il chasse Hérode et qu'il monte sur le trône. L'entrée à Jérusalem est un texte important, surtout dans Matthieu, car il nous dit des choses très importantes sur Jésus. D'une part, il s'agit réellement du Seigneur qui rentre dans la ville. On le voit à plusieurs éléments. Par exemple, Jésus envoie deux disciples chercher l'ânesse et son petit, et à un moment dans le dialogue, Jésus dit « Si quelqu'un vous demande quelque chose, vous répondrez « Le Seigneur en a besoin ». Le Seigneur peut se traduire par « chef » ou « patron ». ou même parfois monsieur, mais c'est aussi le mot qui sert à désigner Dieu. Et c'est la seule fois dans tout l'évangile où Jésus s'applique ce mot à lui-même. C'est intéressant quand même. La seule fois dans tout l'évangile où il s'applique le mot Seigneur à lui-même. Et quand Jésus entre dans la ville, il se laisse proclamer, acclamé par la foule et par ses disciples. L'évangile de Luc nous rapporte un incident qu'on ne trouve pas dans les autres textes des évangiles. Quelques pharisiens, en entendant les acclamations des disciples, disent à Jésus, « Maître, calme un peu tes disciples. » Jésus leur répond, « Je vous le dis, si eux se taisent, ce sont les pierres qui crieront. » Et donc Jésus se laisse acclamer par la foule et les disciples. Il vient comme le roi qui rentre dans sa ville. Mais en même temps, pour donner à cet événement sa vraie mesure, Jésus va se mettre en scène. Peut-être que ça vous surprend, mais Jésus va se mettre en scène. En choisissant une monture particulière, à la fois traditionnelle et surprenante. Le choix de la monture, l'âne, donne le sens de l'entrée de l'événement, ce que Matthieu met particulièrement en évidence par la citation du prophète Zacharie. Le choix de la monture donne d'autant plus de sens que Jésus ne va pas prendre la parole pour s'adresser à la foule. Il ne va rien dire. Si on veut comprendre quelque chose, il faut regarder ce qu'il fait. Ok ? Il n'y a pas de discours de Jésus hein, dans Matthieu 21. Donc si on veut comprendre quelque chose, il faut voir comment il agit. Il ne va pas se dire roi, les foules même vont parler de lui comme d'un prophète. Jésus va envoyer deux de ses disciples chercher un anon. Certains commentateurs pensent que Jésus avait tout préparé d'avance. D'autres disent que tout rabbin avait le droit de réquisitionner une monture. Voilà. Il y a deux explications. Et que c'est ce que Jésus a fait. Peu importe. Ce qui compte, c'est que Jésus va entrer à Jérusalem comme un roi acclamé par son peuple, mais pas n'importe quel roi. Un roi plein de douceur, nous dit le texte, monté sur un anon. Et donc l'entrée de Jésus à Jérusalem est paradoxale à vue humaine. Il entre comme un roi, il se laisse acclamer, célébré par la foule en liesse, mais il ne vient pas sur un cheval, comme l'aurait fait Hérode s'il avait été à ce moment-là entré dans la capitale. Il ne le fait pas comme un roi soucieux de sa gloire et de sa dignité, il vient sur un anon. Le choix de la monture révèle le sens que Jésus donne à son entrée. Et ce sens sera mis en valeur et amplifié par la citation que nous trouvons au verset 5 et qui vient pour l'essentiel du livre du prophète Zacharie au chapitre 9. « Dites à la fille de Sion, ton roi vient à toi. » Le prophète souligne que l'initiative vient de Dieu qui visite son peuple. Ce que tous les évangiles soulignent évidemment. Il vient comme le roi. Mais aussi, juste après, il vient plein de douceur. Plein de douceur. Il y a plusieurs mots grecs qui évoquent l'idée de douceur. Si on cherche le sens du mot utilisé ici, dans d'autres textes de la littérature grecque, il désigne une humeur calme et apaisante. La douceur s'exprime par la modération et le souci de bonnes relations, avec, si nécessaire, la recherche de la réconciliation en cas de conflit. L'homme doux est enclin au pardon, à la patience. Cette douceur se vérifie, on le sait, dans les attitudes que Jésus a eues et qu'on peut lire par les évangiles. Mais si on se réfère à l'Ancien Testament et plus à la littérature grecque, on tombe sur quelque chose de surprenant. La Septante utilise le mot pour traduire un terme hébreu centré sur l'humilité, sur l'abaissement, sur la soumission devant Dieu. Sur l'humilité et la modestie dans les relations avec les autres. Ça, c'est le sens de ce mot dans la Septante, dans la traduction grecque de l'Ancien Testament. Et dans cette traduction grecque de l'Ancien Testament, ce mot n'est jamais attribué à Dieu. Parce que Dieu est trop grand, vous voyez ? Il n'est jamais attribué à Dieu. Mais ici, il est attribué à Jésus. Un mot de la même racine désigne non pas la douceur, mais les doux. Dans l'Ancien Testament, il désigne les pauvres, les exploités, les opprimés, ceux qui sont humbles, entre guillemets, par la force des choses. Vous voyez? Ils n'ont pas le choix. Et l'Ancien Testament souligne que Dieu porte une attention particulière à ces pauvres. Jésus se définit lui-même comme doux et humble de cœur. En Matthieu 11, 29. Matthieu 12 décrit cette douceur même s'il ne boignait pas. Voici mon serviteur, celui que j'ai choisi, mon bien-aimé, celui en qui j'ai pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations, il ne cherchera pas la dispute, il ne criera pas. Personne n'entendra sa voix dans les grandes rues. Il ne brisera pas le roseau froissé, il n'éteindra pas le lumignon qui fume, jusqu'à ce qu'il ait porté la justice à la victoire, et les nations mettront leur espérance en son nom. Voilà le genre de roi doux que Jésus est. Cette douceur, on la voit dans ce que l'apôtre Paul nous raconte sur l'abaissement de Jésus, lui qui était vraiment divin, qui ne s'est pas prévalu d'un rang d'égalité avec Dieu, mais qui s'est vidé de lui-même en se faisant vraiment humain. Il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est la douceur abaissement, la douceur humilité. Jésus se fait proche des plus pauvres, des plus malheureux. Il s'identifie même à eux, comme on le voit dans la parabole du jugement en Matthieu 25. Cette royauté, vécue dans la douceur et l'abaissement, se vérifie donc dans le choix de la monture, décrite avec détail dans la citation « Il arrive monté sur une ânesse ». Sur un ânon, le petit d'une ânesse. Dans la foule qui célèbre Jésus, il y a probablement des gens qui ont des idées différentes et des attentes différentes concernant Jésus. Beaucoup attendent une amélioration de leur situation concrète. Jésus n'a-t-il pas guéri des malades, délivré des possédés, nourri des foules gratos, et même ressuscité des morts? D'autres s'attendent à un renversement politique. Et même les disciples qui ont pourtant bénéficié de l'enseignement de Jésus n'ont pas une idée juste de ce que Jésus est venu faire dans ce monde et de ce que représente cette entrée dans Jérusalem. Tout ça pour dire qu'il n'est pas si facile d'entrer dans la Semaine Sainte. Seuls ceux qui ont compris l'enjeu de l'entrée de Jésus à Jérusalem peuvent entrer pleinement dans la compréhension de la suite. Seuls ceux qui ont compris et accepté que Jésus est un roi très différent de ce que le mot nous évoque spontanément. Seuls ceux-là pourront entrer pleinement dans ce mystère absolument incroyable. Le Fils de Dieu va se laisser arrêter, frapper, condamner et exécuter. Tout ça pour notre salut. Voilà comment Jésus exerce le pouvoir. C'est en se mettant au service des autres. Ça correspond à la vision biblique du pouvoir, qui est un service pour ceux qui dépendent de nous. Et ça, c'est valable aussi bien pour Jésus roi, que pour nous en tant que parents, en tant que patrons, en tant que contremaître, que sais-je, ou encore, ayant de l'autorité sur quelqu'un. La vraie difficulté pour nous, souvent, c'est de s'approcher de ce roi dont le comportement est caractérisé par la douceur et l'humilité, par l'abaissement, par la bienveillance, par la simplicité dans la relation. Si nous n'avons pas de discours de Jésus à ce moment-là, c'est peut-être parce que le texte nous invite à juste contempler Jésus, à regarder comment il fait, et à l'accompagner aussi durant toute cette semaine. À l'accompagner dans le jardin, à l'observer quand il lave les pieds de ses disciples, qui est une autre manifestation du roi humble. le contempler lors de la scène, quand il se laisse arrêter alors qu'il pourrait très bien échapper à cela, quand il se laisse mépriser, bafouer et mourir. La douceur de Jésus ne correspond pas à une attitude stratégique. Elle exprime le fond même de sa personne. Comme l'amour exprime le fond même de la personne de Dieu. Comment, dans notre monde, refléter cette attitude de Jésus, nous qui voulons être ses disciples? Pouvons-nous accepter, en toute situation, d'être dans cette humilité et dans ce service qui caractérise Jésus? Et Jésus est comme ça avec tout le monde, même avec Judas, qu'il appelle mon ami, alors qu'il va partir pour faire venir les soldats pour l'arrêter. Ce Jésus-là, je nous invite à profiter de la semaine sainte pour qu'il grandisse en nous, pour que nous puissions nous centrer sur lui dans nos relations, et lui ressembler de plus en plus. Pour que nous puissions aussi, avec cette même attitude, être ses témoins. Ce qui est frappant là-dedans, c'est que Jésus est bien sans force. Sans pouvoir. Il a le pouvoir, mais il n'exerce pas. Et il attire des gens à lui, mais pas du tout par des démonstrations de puissance extraordinaires. En dehors de la résurrection, mais personne n'a vu le ressuscité, sauf des disciples. Donc pour l'évangélisation, ça ne marche pas très bien. Seuls les disciples ont vu Jésus ressuscité, à part l'apôtre Paul, qui n'était pas encore disciple à ce moment-là. Attirer des gens à Jésus, enlever, préparer le chemin du Seigneur dans la vie d'autres personnes, ça fait partie aussi de notre défi, et de le faire justement dans cette attitude d'humilité et de simplicité qui est la sienne. En attendant, et c'est ma conclusion, profitons de cette semaine sainte pour passer plus de temps avec lui que d'habitude et pour entrer dans le mystère de cette personne qui est le roi, le Seigneur, le Tout-Puissant et qui se fait serviteur, humble, obéissant jusqu'à la mort. Amen.